France Inter.
Et c'est le journal d'Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour Simon, bonjour à tous. La météo fait le yo-yo et les cultivateurs ont le moral à zéro. Dans le centre et le nord de la France, les champs sont gorgés d'eau, impossible de semer. Après des semaines de pluie en continu, toute la saison est remise en question. Je vous emmènerai dans la Beauce. Ultime négociation sur l'emploi des seniors entre syndicats et patronat. Avant le gros morceau, l'assurance chômage que le gouvernement veut à nouveau réformer. Laissez-nous souffler, clament les partenaires sociaux. Vous les entendrez. Dans ce journal, nous serons aussi en Moldavie, qui se raccorde au réseau électrique européen par peur de la Russie, et avec les capitalistes anonymes, ces nouveaux groupes de parole pour éco-anxieux.
Dans 20 minutes, un écrivain américain dont on ne compte plus les best-sellers, John Grisham, au micro d'Alexandra Ben Saïd.
France Inter.
Après la chaleur exceptionnelle de ce week-end, les températures vont dégringoler, Alexis, cette semaine.
Oui, avec le retour de la pluie dès aujourd'hui, même si on n'avait pas vraiment eu le temps de l'oublier. Depuis un mois, il pleut presque tous les jours dans certaines régions. 4 à 6 fois plus de précipitations que d'habitude au mois de mars au niveau national. Et l'eau en excès, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les agriculteurs. Surtout en plein semis, les cultures prennent du retard sur la moitié nord du pays. Comme vous l'avez constaté, Mathilde Dehimi, dans la Beauce, entre Orléans et Paris.
Le vent pousse les averses sans discontinuer.
Là, dans 10 minutes, je pense qu'elle est sur nous.
Une nouvelle journée de perdu pour Charles Perdereau, qui regarde ses échalotes déposées il y a 10 jours sur la terre.
On voit qu'elles ont commencé déjà à faire des racines, mais elles les font en dehors, donc elles commencent à s'épuiser. Il va être grand temps qu'on arrive à les repiquer correctement pour qu'elles prennent racine dans le sol.
Encore faut-il pouvoir rentrer dans les parcelles quand la terre emprisonne les bottes.
À chaque passage de tracteur, on descend de 5, 10, 15 cm. Quand le sol est trop humide, on va faire des boulettes, on va faire des grosses mottes. Et derrière, on va être directement pénalisé dans la bonne implantation de la culture.
En mars, Charles et sa vingtaine de saisonniers n'ont pu travailler que 5 jours. Il en aurait fallu 15 et le retard s'accumule.
Si on a un printemps qui va rester humide et chaud, souvent ça crée des maladies. Ça va impacter le rendement. En betterave, on va peut-être perdre que 10-15-20%. Sur de l'oignon de semis, 15-20%. Après, les chalotes traditionnelles, on peut potentiellement arriver à 50% avec le mois de retard.
Seule la moitié des semis sont plantés.
Est-ce que ça vaut le coup d'implanter si on est hors date? Il y a des questions à se poser, à se dire, bah tant pis, on va pas implanter cette culture-là, on va se tourner sur une autre culture de printemps.
On n'en est pas encore à l'heure des choix, dit-il, espérant bientôt au moins 3 jours consécutifs sans pluie pour que les champs sèchent.
Les agriculteurs et leurs syndicats qui disent toujours attendre la concrétisation des promesses gouvernementales, mais aussi un rendez-vous sans cesse reporté avec le chef de l'État. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a promis la semaine dernière une rencontre dans les tout prochains jours. Eux se revoient une dernière fois aujourd'hui pour parler emploi des seniors, reconversion, usure professionnelle. Syndicats et patronats ont rendez-vous à 9h pour leur ultime séance de négociation. Elle pourrait durer toute la journée, voire jusqu'à la nuit prochaine, car on est pour l'instant très loin d'un accord sur les moyens d'améliorer le taux d'emploi des plus de 60 ans. L'enjeu est aussi politique pour les partenaires sociaux, car un échec signifierait reprise en main par le gouvernement, alors que se profile, Maxime Debs, une nouvelle réforme de l'assurance chômage.
Doucement, disent les syndicats au gouvernement.
Déjà, l'enjeu, c'est de finir cette négociation-là.
Négociation qui, pour Yvan Ricordeau à la CFDT, est loin d'être anodine.
Comme l'âge de la retraite a été repoussé, il faut absolument muscler les dispositifs de reconversion, améliorer la qualité de l'emploi des salariés seniors et en même temps, les organisations patronales n'ont jusqu'à maintenant pas du tout bougé.
Or, c'est dans ce contexte précisément que Gabriel Attal a récemment demandé à sa ministre du Travail de préparer de nouvelles négociations sur l'assurance chômage.
Premier ministre qui nous dit que de toute façon, il nous renverra une lettre de cadrage aussitôt la négociation terminée.
Michel Boga, pour Force Ouvrière.
J'attends les relations parce qu'on ne peut pas avoir de négociations sereines avec un patronat qui pense que de toute façon, il peut obtenir très directement par le gouvernement ce qu'il désire.
Les partenaires sociaux, quitte à tout mélanger, qui passent d'un tour de table d'une réforme de l'assurance chômage à l'autre, pressés de tous les côtés, qui ont à peine le temps de rendre leurs travaux.
Normalement, on devrait avoir une démocratie politique qui respecte le champ de négociation et quand les copies sont finies, eh bien c'est là qu'on discute du contenu.
À chaque négociation suffit à peine, temporisent les syndicats face à l'État impatient qui voudrait rajouter des devoirs. Pour Gabriel Attal, en tout cas sur l'assurance chômage, nouvelle version, la date du rendu est fixée
à l'automne.
Maxime Debs.
À Viry-Châtillon dans l'Essonne, on en sait plus sur les événements qui ont conduit à la mort de Shemseddine.
Cet adolescent de 15 ans roué de coups jeudi à la sortie de son collège. Trois mineurs et un majeur ont été mis en examen hier soir pour assassinat et envoyés en détention provisoire. Ce déchaînement de violence aurait pour origine un différend concernant la sœur de deux d'entre eux, une jeune fille avec qui la victime discutait sexualité. Elle n'était pas présente lors de l'agression, mais selon le parquet, elle savait probablement ce que ses frères envisageaient de faire. Elle a l'interdiction désormais de revenir dans le département. Le soulagement à Grenoble, où l'homme suspecté d'être le violeur à la trottinette a lui aussi été mis en examen et écroué hier soir. Dans cette affaire qui a suscité la psychose dans les rues de la capitale iséroise, la justice le soupçonne notamment de deux viols, une tentative de viol, mais aussi d'agression sexuelle et d'extorsion. Précision Romain Biteau, France Bleu Isère.
Sur sept faits, le suspect a reconnu être l'auteur d'un viol. Il est allé au poste de police vendredi en fin d'après-midi pour répondre à une convocation. Les enquêteurs voulaient l'entendre sur l'utilisation d'une trottinette, d'après son avocat. Les policiers ont alors prélevé son ADN et l'ont comparé avec succès à celui retrouvé sur une des victimes. L'homme de 22 ans, qui habite à Fontaine, connu par la police pour des faits mineurs, a été aussitôt placé en garde à vue. Il y a passé deux nuits en ne s'expliquant pas sur les six autres crimes et délits reprochés. Maître Arnaud Lévy-Soussan et son avocat.
C'est un garçon qui est totalement inconnu de la police et de la justice, qui n'avait jamais été en garde à vue jusqu'ici, et donc qui a été interrogé longuement par les policiers pendant 48 heures. Il a été, on va dire, partiellement coopératif au stade de la garde à vue, et il le sera, je pense, bien plus pendant l'information judiciaire, une fois que sa défense aura pu s'assurer correctement.
Le suspect a été présenté à un juge d'instruction hier en fin d'après-midi. L'enquête maintenant suit son cours pour savoir s'il est bien l'auteur des faits qui lui sont reprochés.
À Paris, l'incendie d'un appartement a fait trois morts hier soir dans l'est de la capitale, le 11e arrondissement. L'enquête devra déterminer les origines, pour l'instant floues, de ce sinistre. Elle est ouverte, cette enquête, notamment pour homicides involontaires.
Il est 7h36 sur Inter. À Gaza, est-ce une vraie accalmie dans les combats ou une simple pause tactique de l'armée israélienne?
Elle a annoncé hier se retirer de Khan Younes, mais dans la foulée, préparer une opération sur Rafah, dans l'extrême sud de l'enclave. Dernier refuge, jusque-là, pour près d'1,5 million de Palestiniens, mais aussi dernier bastion du Hamas, selon Israël. Et le chef d'état-major prévient, la guerre sera encore longue. En 6 mois, elle a fait plus de 33 000 morts parmi les Gazaouis, selon le bilan du Hamas. Et à Jérusalem, des milliers d'Israéliens se sont à nouveau réunis hier soir devant le Parlement pour réclamer un accord sur la libération des otages encore aux mains du Hamas. 6 mois après leur enlèvement, il resterait encore 129 captifs. Rassemblement aussi à Paris pour ces otages, 1500 personnes au Trocadéro hier après-midi. Elle craint d'être la prochaine cible sur la liste de Moscou après l'Ukraine. La Moldavie entame cette semaine la construction d'une ligne électrique pour relier son réseau à la Roumanie voisine et donc au réseau européen. L'idée, c'est de moins dépendre de l'énergie produite en Transnistrie, cette région moldave qui a fait sécession au profit de Moscou. Les explications à Chișinău de Maria Gert Niculescu.
Avec une capacité de 500 MW, la nouvelle ligne électrique raccordera la Moldavie au réseau roumain. Objectif, couvrir 50% de la demande moldave sans passer par la Russie. Ruslan Suruciu, responsable du projet.
La diversification des importations d'énergie, étant donné que la Moldavie a très peu de ressources propres, est cruciale pour atteindre une réelle indépendance dans son développement.
L'électricité moldave est actuellement produite par l'usine de Kouchurgan en Transnistrie, région pro-russe et autoproclamée indépendante, qui importe gratuitement le gaz russe et revend ensuite l'électricité au gouvernement moldave. Ruslan Suruciu.
Il n'y aura pas d'interdiction d'acheter l'électricité auprès de l'usine de Kouchurgan. La seule différence sera que la Moldavie n'en dépendra plus autant.
Certains craignent toutefois une augmentation des prix. Tatiana Ekizli habite à Kongashi Kuldesus, où débutent cette semaine les excavations.
Cette électricité européenne sera plus chère, mais nos salaires sont très bas. Nous ne pourrons pas nous le permettre.
Au total, trois nouvelles lignes électriques doivent voir le jour d'ici 2028 pour couvrir la totalité de la demande moldave.
Maria Gert Niculescu en Moldavie pour Inter. C'est l'un des plus grands scandales d'évasion fiscale. 8 ans après les révélations des Panama Papers, le procès s'ouvre aujourd'hui au Panama. 27 personnes jugées jusqu'à la fin du mois pour blanchiment, dont les deux fondateurs du cabinet d'avocats Mossack Fonseca au cœur du scandale. À l'époque, plus de 11 millions de documents confidentiels ont fuité, révélant que des personnalités de la politique, du sport, des finances ou de la culture avaient profité de montages fiscaux pour échapper aux impôts dans leur pays. Eux sont loin de ces montages financiers astronomiques, mais ils culpabilisent tout de même de leur participation à la société de consommation. Un peu partout en France, des éco-anxieux créent des groupes de parole d'un nouveau genre, autoproclamés ironiquement capitalistes anonymes, un peu sur le modèle des alcooliques anonymes. Alors à quoi ça ressemble ? Reportage d'Adrien Serrière à Issy-les-Moulineaux, près de Paris.
Bonjour à tous, je m'appelle Julien, bienvenue au Capitaliste Anonyme.
Dans la pièce, une dizaine de personnes assises en cercle.
Aude.
Arthur.
Marie-Noël.
Donc une seule condition pour participer, la volonté d'être sobre.
Car ici, le point de départ est de se considérer comme un addict, consommant pour son plaisir, bien que conscient des conséquences négatives pour la planète. Et au programme du jour...
Je vous propose de parler de la 7e étape.
Se confier sur ses actions militantes.
Est-ce que quelqu'un veut se lancer ?
Oui, je veux bien.
Vas-y.
Mes gamins, honnêtement, entre guillemets, les privent d'un certain nombre de choses. Ma fille, des fois, elle me dit, oh là là, mais j'aimerais bien aujourd'hui avoir... un biscuit industriel pour me goûter. De ce point de vue-là aussi, je suis à mon tout petit niveau un peu militante.
C'est vrai, pour demander ce que tu dis, effectivement, faire partir d'une AMAP, je pense aussi que c'est un acte militant, faire son compost...
Et même si la consigne est de parler de soi, la conversation prend parfois des tournures plus politiques.
Je suis aussi découragé, je suis dans un monde qui ne cherche pas mon bien, a priori.
Petit à petit, ça vient quand même, il y a beaucoup plus de gens qui prennent du vélo, les transports en commun, ils sont pleins, enfin, il y a plein de choses aussi qui bougent.
Toutes les deux semaines, ces anonymes se livrent leurs émotions et leurs idées, avec l'ambition d'entraîner d'autres capitalistes sur la voie de la sobriété.
Et d'ailleurs, d'autres groupes de ce genre sont en train de voir le jour aussi au Havre, à Bordeaux, Marseille ou encore Saint-Malo. Et puis Simon, ce sera l'une des images insolites du jour. Ce matin, à l'Élysée, des membres de la garde royale britannique, coiffés de leur célèbre chapeau en fourrure, vont participer à la relève de la garde devant la présidence. Parallèlement, la garde républicaine française fera la même chose devant Buckingham Palace à Londres. Pourquoi ? Eh bien, c'est un clin d'œil commun pour célébrer les 120 temps de l'entente cordiale, cette série d'accords signés entre la France et le Royaume-Uni en 1904 pour régler leurs contentieux.
Merci Alexis Morel. La politique et Elle Gauze, l'économie Dominique Seux et l'invité d'Alexandra Ben Saïd à suivre.